Poker Menteur. Avec Patrick Trouillou dans le rôle de Patrick Trouillou
et Franck Bonnet dans le rôle de Franck Bonnet.
Poker Menteur. L'émission qui interroge le monde
de Villefranche à Tataouine.
Galade 100.9.
Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Vous êtes bien sur Calade 100.9, votre émission Poker Menteur. Alors ce soir, Patrick, nous allons parler de quoi, dites-moi.
Bonsoir, on va parler d'un sujet dont on nous rebat les oreilles encore et encore depuis quelques mois. C'est le fameux populisme.
Alors qu'est-ce que c'est
que ce truc ?
Voilà, parce qu'on en parle tellement
et on
a l'impression qu'en fait on n'arrive pas à donner quelque chose de précis.
Exactement.
Tout ça me semble très flou.
Ouais, plus on en parle et moins on comprend de quoi il s'agit. Bah, en fait, cette histoire de populisme, c'est parti de quoi ? C'est parti d'évolution politique quand même en Europe, avec l'arrivée par exemple en Europe de l'Est de certains gouvernements un peu de droite dure, extrême, comme en Pologne, en Hongrie. Hongrie, on va en reparler, d'accord ? Plus récemment, c'est parti de l'arrivée au pouvoir en Italie, d'une alliance un peu hétéroclite entre la Ligue du Nord d'extrême droite et puis le mouvement 5 étoiles. Si on s'éloigne un petit peu géographiquement, on peut parler en Turquie de la dérive du pouvoir de Erdogan en Turquie, qui a été élu régulièrement, mais qui n'empêche, voit son pouvoir se renforcer à travers tout un tas d'événements. De façon extrêmement récente, on a aussi l'arrivée au Brésil du pouvoir de l'extrême droite qui est amenée par M. Bolsonaro. Et enfin, last but not least, quand même, on ne peut pas ne pas parler de l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Et tout ça, ben on nous dit c'est des populistes. Ok. Sauf que chez nous, plus récemment, de façon plus ancienne, on a eu un Front National qui est puissant depuis les années 80, on en reparlera. Et lui aussi, il s'est vu affubler l'étiquette de populiste. Donc à un moment, on se dit ok, populisme, c'est l'extrême droite, et puis on passe à autre chose. Et c'est là que ça se complique.
C'est beaucoup plus compliqué que cela.
C'est là que ça se complique.
Et il y a un populisme de gauche.
Exactement.
On en parlera à la fin d'ailleurs de l'émission.
On a soudain, depuis quelques années, vu affubler de l'étiquette de populiste des gens qui sont, par contre, classés résumés à gauche. Donc, notre ami Mélenchon, enfin, entre guillemets, notre ami Mélenchon, nous sommes neutres. Et puis, le mouvement Syriza en Grèce, et puis le mouvement Podemos en Espagne, etc., etc. Donc, arrivé là, on n'y comprend plus rien. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce populisme ? C'est de l'extrême droite ? C'est de la gauche radicale ? En tout cas, il y a un truc qu'on a compris, si on écoute M. Macron, notre patron, notre président, c'est que les populistes, c'est les vilains. Et les autres en face, Macron, c'est les gentils.
Alors,
c'est bien ce débat, ça simplifie les choses. On a les gentils d'un côté et les vilains de l'autre.
Intervenir là-dessus, et je dis tout le temps à mes élèves, vous savez, je ne sais pas si je suis gentil ou si je suis méchant, mais il n'y a pas de noir et de blanc.
Il y a du
gris partout. Il y a des gens qui sont gris très clairs et d'autres qui sont gris très foncés.
Ouais.
Le noir et le blanc, j'y crois pas en politique. C'est malheureusement manipulateur.
C'est peut-être pour ça qu'on a voulu en parler de cette histoire-là.
Exactement.
Donc on va s'y coller, on va s'y coller, puis on va commencer. Tu vas commencer
oui.
par un petit peu ton dada, c'est-à-dire nous faire une petite approche historique de cette notion.
On peut remonter à très loin dans l'histoire de l'humanité, à savoir des hommes politiques qui s'intéressent de près, on va dire, aux difficultés des gens de la classe moyenne ou voire populaire. Populiste. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces gens-là et qu'est-ce qu'on peut remettre en question par rapport à cette approche historique ? Alors, on peut en parler tout d'abord par rapport à l'histoire des Gracques. Alors, qu'est-ce que c'est que les Gracques ? Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce serait un peu trop ennuyeux et trop historique, tout simplement. Et ben, vous avez deux personnages.
Mais ça remonte à quand, les Gracques ?
À 2e siècle avant Jésus-Christ.
Ah ouais.
Donc, ça remonte à plusieurs milliers d'années.
D'accord.
Il faut être clair. Et ben, ces Gracques, ces deux personnages, sont deux frères. D'ailleurs, ce sont les petits-fils de Scipion l'Africain, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire, ça a été un empereur romain, et Scipion l'Africain a vaincu les Tunisiens, enfin les Carthaginois, lors des guerres puniques.
D'accord.
Donc, nos amis les Gracques, qu'est-ce qu'ils ont proposé ? Très rapidement, ils sont aperçus qu'il y avait, en Italie de l'époque, et dans l'Empire romain, énormément de terres qui étaient très mal exploité. Et il n'y avait pas de limite à la possession des terres par rapport aux plus riches. Et notamment les sénateurs étaient tous des très très gros propriétaires terriens. Donc qu'est-ce qu'ils ont proposé ? De limiter la quantité de terres que l'on pouvait acheter.
D'accord.
En redonnant, redistribuant, c'est une réforme agraire, pour redistribuer des terres à ceux dont, enfin, qui en avaient besoin.
Donc ça, c'était un poil révolutionnaire, je pense. Hein,
ah bah on imagine à l'époque.
Pour les
sénateurs,
propriétaires terriens,
ça n'a pas été terrible pour eux. Parce
ils n'ont pas apprécié.
Ils n'ont pas apprécié du tout. Mais il n'empêche qu'eux sont devenus des gens très, très populaires.
Bah, bien sûr.
Là, on est vraiment dans le populaire avant d'être populiste.
Ouais, ouais, ouais.
Si
ouais.
Tu vois ce que je veux dire.
Ouais.
Et donc, résultat de tout ça, ils ont été contraints, entre guillemets. Ils ont été plus ou moins poussés au suicide. Ils ont eu des gros problèmes. Enfin bon, c'était terminé. C'était affreux. Ils ont marqué l'ère de l'histoire où on a pour la première fois des individus qui se soucient du peuple. Si je peux
voilà,
dire.
D'accord. Donc ça, on voilà. pourrait dire que c'est la première occurrence de ce terme qui va être utilisé bien plus tard.
Bien sûr. Alors, on avance dans le temps.
Ouais.
On avance dans le temps. On arrive à la Révolution française.
D'accord.
Et la Révolution française, c'est quand même une période quand même extrêmement particulière de notre histoire. Et on a un certain Babeuf.
Gracchus Babeuf.
Il s'appelle François Babeuf à l'origine, et qui va se rebaptiser Gracchus Babeuf, voilà. Bien sûr. Et qu'est-ce qu'il propose ? On dit que c'est un, on va dire, des fondateurs du socialisme et du communisme à la fin du XVIIIe siècle, avant Marx.
D'accord.
Et il propose, encore une fois, la même chose, c'est-à-dire stop aux inégalités, on redistribue de façon démocratique toutes les terres, et notamment aux plus pauvres. Donc il avait une vision extrêmement socialiste, voire communiste, des choses. Il a mal terminé, il a terminé sur l'échafaud, il a laissé des traces. Et il a créé notamment un mot qui va ensuite être transformé, et c'est un mot qui va te parler. Populicide.
Oula.
Populicide, c'est un néologisme.
Populicide, destruction du peuple.
Destruction du peuple par rapport au fait que, je rappelle, en 1793-94, vous avez la grande terreur révolutionnaire. Et on a exterminé en masse des Vendéens monarchistes.
D'accord.
Et pour lui, c'est un populicide.
Ah d'accord, ok, voilà, d'accord.
Voilà. Qui donc, est à l'origine du terme de génocide.
Ouais. Donc l'affaire des Chouans, en quelque sorte.
Exactement.
Lui, c'est ce qui préfigurera le génocide, la notion
tout
de génocide.
Tout à fait. Donc, d'accord. Il parle de populicide. Et ce terme donc, va être transformé dans le temps. Et là, on se demande, justement, ces racines du peuple viennent de ces histoires qui remontent à plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'années, quand
d'accord.
on y pense.
D'accord.
C'est intéressant quand même de soulever ce problème. Donc ça, c'est la partie, vous voyez, là, on vient de simplement montrer quelques exemples historiques de l'origine, peut-être, de ce qu'on appelle
le populisme. C'est les fondements souterrains, on pourrait dire. Hein.
Je pense.
Ouais.
Et je pense que Gracchus Babeuf.
C'est un fondement plus manifeste maintenant.
Tout à fait. Gracchus Babeuf, en fait, a lancé une idée qu'on devient populaire quand on s'occupe du peuple.
D'accord, ok.
Voilà.
Et si je ne dis pas de bêtises, c'est fin 19e, en Russie d'un côté, aux États-Unis de l'autre, qu'on va arriver à ce terme de populisme.
Bien sûr.
Parti populiste.
Alors, il faut savoir aussi qu'aux États-Unis, je ne sais pas si les gens s'en rendent compte, maintenant, on pense que c'est un pays totalement libéral, où toutes les valeurs sont liées à l'argent. Il faut savoir que les États-Unis étaient, il y a 100 ans, un exemple extrêmement important du socialisme et de l'anarchisme.
Hein. Ouais.
Il y avait une puissance socialiste aux États-Unis extrêmement forte. Et ce qui a un peu, on va dire, fait décliner tout ça, ce sont les guerres mondiales et la guerre froide.
Ouais, ouais.
Et la guerre froide met un terme définitivement, entre guillemets, au socialisme, si je puis dire, aux États-Unis, avec l'ennemi numéro un qui était l'Union soviétique.
Oui, après la lutte féroce de l'anticommunisme.
Alors, après cette approche historique, définissons un petit peu les mots, peut-être.
Ok, on va passer donc à la partie suivante. On va essayer de définir ce terme. Et là, c'est assez vide, en fait, hein, quand on cherche à définir ce terme. Du moins, je dirais, les travaux de recherche scientifiques sont assez peu nombreux. Alors, vas-y, on t'écoute.
Alors, déjà, j'aimerais définir le mot « peuple » avant le mot « populisme ».
Oui, c'est une bonne idée.
Le peuple, en général, c'est l'ensemble des personnes qui supportent ceux qui ont le pouvoir.
Ouais.
D'accord ? Ceux qui ont le pouvoir sont inaccessibles pour le peuple.
Ouais.
Dans beaucoup de domaines, quel que soit le domaine. Exemple, dans la vie de tous les jours de maintenant, on va prendre un exemple, un smicard, par exemple, il ne peut pas habiter dans une grande ville française parce que les loyers et les prix sont trop élevés.
Ouais.
il peut pas très difficilement, on va dire, manger correctement tous les jours. Ou varier tous les jours. Il doit prendre sa voiture parce qu'il habite loin de son lieu de travail.
Et il paye des taxes terribles sur l'essence qui n'arrête pas d'augmenter.
N'est-ce pas ?
Sujet d'actualité.
C'est quelqu'un qui, malheureusement, doit subir quelque chose et ne pourra jamais accéder au pouvoir.
Ouais.
Et ceux qui ont le pouvoir, qui sont forcément une minorité, ont accès à tout ce qu'eux n'ont pas accès. Et je vous dis, pour moi, le bon exemple, c'est le lieu d'habitation.
Oui, oui, bah là, c'est de plus en plus évident. Hein. Paris, Lyon, allez-vous
Paris,
loger
Lyon, à Lille. À Lyon, Lille est devenue extrêmement chère. J'en sais quelque chose, que j'habitais 40 ouais. ans là-bas. C'est à l'origine une ville ouvrière qui est devenue maintenant une ville bourgeoise.
D'accord.
Les loyers sont inaccessibles. C'est devenu extrêmement cher d'habiter à Lille. Alors que c'est bon.
Ouais, ouais, ouais.
On se dit, on habite à Lille, c'est pas. Non, bah, c'est devenu très cher. Donc vous habitez en banlieue ou dans les petites villes ou les villes moyennes. Donc le peuple doit subir ça.
Ouais.
Ils représentent une grosse masse et la plupart du temps, on les entend pas. Peu. Sauf dans les manifs, comme on aura là bientôt le samedi, c'est pas imprévu, 17 novembre, où on aura tout à fait ce type de personnes qui vont aller manifester leur colère par rapport à la hausse du carburant. Voilà.
D'accord.
Voilà quelle, moi, quelle définition je pourrais donner du peuple.
Okay.
Pour toi, Patrick, dis-moi.
Ah ben moi, c'est pas le peuple, c'est plutôt le populisme. En fait, j'ai cherché, j'ai trouvé une définition d'une université canadienne, l'université de Sherbrooke, qui a défini le populisme de la manière suivante. Il nous dit que c'est un mouvement politique ou une idéologie qui fait la promotion du peuple, alors le peuple réel ou imaginaire, hein, en développant un discours fondé sur une triple méfiance. Méfiance contre les élites, tiens, que ce soit les partis, les députés, les fonctionnaires, les élites en général. Méfiance contre un prétendu système caché qui trahirait les intérêts du peuple, alors là, c'est un peu, ça sent bon la théorie du complot. Hein. Et troisième méfiance, contre tout ce qui est institutions internationales, mouvances internationales, organisations internationales, qui opère contre les intérêts du peuple. D'accord ? Donc, ce que dit aussi l'université de Sherbrooke, c'est que le populisme, c'est plus qu'un mouvement, c'est un style politique, en quelque sorte, avec des aspects d'anti-parlementarisme, d'anti-intellectualisme, avec une idée fondamentale que le peuple, il est bon, il est sain, il est uni, et qu'il a été trahi, trompé. Et qu'il faut revenir à une sorte de vérité du peuple, en quelque sorte, d'accord ? Donc, cette notion de style politique, beaucoup de monde l'a repris. Même Pierre-André Taguieff, hein, qui est un chercheur français assez connu, en 97, définissait le populisme un peu de la même manière. Il disait il ne s'incarne ni dans un type défini de régime, ni dans des contenus idéologiques déterminés. Nous l'aborderons comme un style politique. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur le peuple. Après, attention, après, on peut rajouter des choses. Hein, c'est-à-dire que Pierre Rosanvallon, lui, a rajouté des constantes nationalistes, protectionnistes aussi à ce discours général, à ce style général de populisme. Voilà, on pourrait dire que le populisme, c'est un peu ça. Il faut peut-être insister quand même sur un point, c'est l'aspect de l'impression de trahison du peuple par les élites.
C'est ça. Oui. Je pense qu'effectivement, il y a le sentiment d'abandon du peuple par rapport à des technocrates ou des gens intellectuels ou très haut placés qui, en fait, méprisent complètement la majorité des personnes qui habitent sur leur territoire et qui sont entre eux dans des réseaux internationaux qui dominent et qui, et en fait, ils tirent les manettes quoi, d'un système qui est mauvais pour eux.
Ouais.
Et ce qui est en fait dangereux, c'est que certains hommes politiques en profitent pour se mettre en avant.
Ouais.
C'est-à-dire que le constat n'est peut-être pas faux en soi, mais certains en profitent pour se mettre en avant uniquement dans leur propre intérêt.
Oui, bien sûr. Bien sûr.
Et c'est pour ça que c'est très difficile pour n'importe qui de faire la différence entre le populiste et celui vraiment qui veut aider le peuple. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ?
Oui, ouais, tout à fait. Bien
Parce qu'il y a énormément d'hypocrisie là-dessus.
Bah, ça va être un peu la suite, mais on va lancer un petit jingle et après on reprendra.
Galade.
Donc vous écoutez Poker Menteur, aujourd'hui nous parlons du populisme, vaste question, notion floue qu'on essaie de définir. Et comme tu le dis, certains politiques vont utiliser cette notion pour, je dirais, pour leur intérêt personnel. Et on va donc passer à une partie qui va un petit peu retracer tout ça. Cette partie, on l'a appelée la montée des extrêmes droites en Europe et en France. On va commencer par la France, parce que sur un plan historique, ça a été d'abord la France. Donc tu peux nous parler de tout ça ?
Ah, je peux en parler un petit peu, oui, parce que c'est un sujet de réflexion qui me taraude depuis des années. comment on peut expliquer effectivement de voir un parti comme le Front National ou le Rassemblement National maintenant aussi élevé, premier parti de France en termes de vote. A priori, ils sont en tête dans les sondages pour les élections européennes, il me semble.
Ouais.
Donc, ouais. Comment on peut expliquer ça et comment contrer ça? Alors, souvent, les hommes politiques disent, et c'est trop tard, il faut lutter contre le FN en votant pour l'autre. C'est classique.
Ouais.
Les élections de 2017, c'était pour lutter contre Marine Le Pen, vous votez Emmanuel Macron. C'est tout ce qui n'est pas bon. Pour lutter contre un parti, enfin, si on veut, contre un parti d'extrême droite, si on peut considérer d'extrême droite, après ça, on peut discuter là-dessus les termes. Si on veut lutter contre des partis gênants, on va dire, il ne faut pas leur donner, les alimenter. On a tout fait pour les alimenter, ces gens-là. C'est ça le problème de fond. Je m'explique. Je remonte dans les années 60.
Ouais.
Vous êtes en France dans les années 60. Vous avez un pays qui est encore extrêmement agricole. Vous avez un pays où il y a énormément de gens qui travaillent la mine et l'industrie.
Ouais.
D'accord ?
Ouais.
J'en sais quelque chose. Je viens du département du Nord et je peux vous dire que le charbon, c'était quelque chose en Nord. Mes parents avaient un convecteur. Tout le monde avait un convecteur charbon. C'était
quel
logique.
Bon temps.
Oui, sauf que...
Avec les particules fines et tout.
J'ai failli avoir un gros problème d'intoxication au monoxyde de carbone, d'ailleurs. Mais bon, revenons à des choses plus sérieuses. Le charbon, à la fin des années 60, on dit aux Français, il est trop cher.
Ouais.
On arrête d'exploiter. On importe d'Afrique du Sud et d'Australie. Et on ferme les mines.
Ouais.
Alors, il faut savoir que dans le Nord, on disait... Métier de mineur, métier de seigneur. Pourquoi ? La compagnie minière donnait le logement, le chauffage, souvent les soins, d'accord ? Le loisir, le jardin.
Ouais. C'était ces grandes entreprises françaises, ce qu'on a appelé le paternalisme à la française.
Exactement, ils donnaient tout.
Tout à fait.
Et pour les meilleurs d'entre eux, ceux qui voulaient, notamment je pense à un certain Coppa, Raymond Coppa, c'est-à-dire quelque chose, le joueur de football, qui s'appelait Coppa Jevski, donc qui vient de la région du Nord-Pas-de-Calais, donc ses parents étaient mineurs, il s'en est sorti grâce au football, parce qu'il déjà était doué, évidemment, et parce que la mine lui payait ce loisir.
Et c'est ce monde qui s'est écroulé.
Et ce monde s'est effondré dans les années 60, en quelques années.
Ouais.
Alors, vous arrivez donc début des années 70, qu'est-ce qui se passe ? Donc les mines ferment les unes après les autres. Et on dit aux mineurs, bah écoutez, on va trouver une solution, vous n'avez plus d'emploi dans la mine, mais on va vous proposer un emploi dans l'usine, qu'on va créer, ou l'usine qui est à côté.
Quelle usine ? L'usine de quoi ?
Alors ça peut être plusieurs types d'usines, ça peut être la sidérurgie, l'automobile.
Ouais. Okay.
Généralement des emplois peu qualifiés.
Ouais, bien
Parce
sûr.
Que forcément, les mineurs, ils commençaient à 14 ans, ils allaient au charbon, comme on disait dans le Nord, et puis voilà. Ils avaient, oui, et ils n'avaient pas bagage intellectuel, ils avaient vraiment la base, c'est tout. Donc des emplois peu qualifiés. Et qu'est-ce qui se passe à partir du milieu des années 70 ? Valéry Giscard d'Estaing estime qu'il faut absolument tertiariser l'économie française. Qui dit tertiarisation dit désindustrialisation. Donc on commence au milieu des années 70, en plus accentué par la crise économique.
Qui apparaît à partir des années 70.
Exactement. On commence là à fermer les usines, les unes après les autres, dans le Nord-Pas-de-Calais. Et là, évidemment, ça pose problème. Chômage qui explose, désindustrialisation, donc ça veut dire que les gens qui étaient sous-qualifiés ne retrouvent pas d'emploi.
Alors oui, puis si on peut illustrer, c'est le début d'un double mouvement historique, c'est-à-dire les délocalisations progressives qui vont peu à peu transférer l'industrie en Asie.
Tout à fait.
Et deux, l'automatisation, la robotisation, qui fait que les industries qui restent en France, elles vont employer de moins en moins d'ouvriers non qualifiés.
Ce sont des industries de pointe.
Ça accompagne ce qui se passe dans le Nord que tu nous décrit.
Ce sont des industries de pointe, et notamment je pense au nord de Cannes, à Sophia Antipolis. Valéry Giscard d'Estaing a créé donc Sophia Antipolis, mais c'est que des emplois à très très haut niveau de qualification. Et nos pauvres mineurs ou ceux qui bossaient dans la sidérurgie dans le nord n'ont pas les moyens de trouver ce genre de boulot.
Bon, je vais être un peu provocateur. Ok, c'est bien gentil tout ça, mais bon, généralement ils se révoltent, ils votent communiste et youplaboum. Alors c'est quoi le changement ?
Voilà, alors le problème, c'est justement, c'est arrivé de Mitterrand en 81, donc on avance un peu dans le temps. Et au départ, il y a une très très grande espérance dans l'amélioration des conditions de vie pour les classes moyennes, les classes populaires. Et ça a duré.
Le fait de l'arrivée de Mitterrand.
Tout à fait. Ça a duré 2 ans. Tout à fait.
Bah ouais.
Il y a eu l'augmentation importante des salaires, la 5e semaine de congés payés, et la retraite à l'époque.
39 heures.
Et à l'époque, c'était la retraite à 60 ans à l'époque.
Les retraites à 60 ans. Ouais.
Pierre Mauroy, je peux vous le dire, donc c'était l'ancien maire de Lille, dont passe Premier ministre, et pendant 2 ans, effectivement, il y a une vraie politique qui va aider le peuple. D'accord. Sauf que, on arrive en 83, et là, c'est le tournant.
Tournant de la rigueur.
Eh oui, le tournant de la rigueur, dans le sens où là, Mitterrand et Jacques Delors.
Parce que c'est Jacques Delors, le vrai intellectuel
socialiste de l'époque, c'est Jacques Delors.
Oui, c'est lui qui va organiser la rigueur.
Exactement. Donc, il va créer un mouvement social-démocrate sans le dire. Le PS va continuer à s'appeler PS, alors qu'en fait, c'est un mouvement social-démocrate.
Il devient un parti social-démocrate, mais il ne le dira jamais.
Exactement. Et là, c'est le basculement vers la rigueur, c'est-à-dire que là, on est dans un soi-disant gouvernement de gauche avec une politique libérale.
Et je me souviens très bien, même si j'étais jeune à l'époque, il parlait de faire une pause. Et c'est la pause, en fait, qui ne s'est jamais interrompue, en fait.
C'est la parenthèse qui ne s'est jamais fermée.
Voilà, c'est la parenthèse éternelle.
C'est ce que disait Jean-Pierre Chevènement. Ouais, je peux vous le dire parce que je l'ai entendu dire.
Oui, mais pourquoi ils ne sont pas votés communistes, hein, ces gens-là, déçus par Mitterrand?
Mais parce que le communisme s'effondre.
Ah, bah voilà, venons-en.
Le communisme s'effondre à la fois au niveau national et surtout au niveau international.
Et la crédibilité s'écroule.
Bah oui, la crédibilité du communisme chute en masse. Résultat, vous avez quel parti qui propose autre chose en partir de 84, à votre avis?
84 apparaît de façon stupéfiante. Un parti qui est un parti lilliputien, qui fait à peine 1% aux élections chaque fois, qui s'appelle le Front National.
Exactement.
Personne ne le connaît. Et il passe à 11% aux élections européennes, d'un coup d'un seul. Et là, c'est le traumatisme en France. Et la France va être le premier pays européen à avoir une poussée d'un parti d'extrême droite.
Alors,
mais il ne va pas être le seul.
Alors, je pose quand même une chose aussi qui est importante, c'est qu'à la fois Jean-Marie Le Pen est extrêmement intelligent et cultivé. Il faut savoir que c'est quelqu'un qui connaît parfaitement l'histoire de France, qui passe très très bien dans les médias. Et Mitterrand va tout faire pour le médiatiser.
Ouais,
parce que comme ça, ça casse la droite.
Il va se servir de Le Pen contre la droite. Alors là, c'est clair, je m'en souviens très bien également.
Il casse la droite, il se dit tranquille, comme ça je serai réélu tranquille. Et c'est exactement ce qui est arrivé en 88.
Tout à fait.
Oui, il est réélu en 88, malgré ses problèmes de santé, enfin ça c'est encore autre chose. Mais donc le Front National a à la fois été une des conséquences de la désindustrialisation.
Et de la chute de l'alternative communiste, comme modèle alternatif.
Et la fin même du communisme en France.
Du communisme ensuite. Alors ce qu'il faut dire, c'est que la France au début est à peu près le seul pays d'Europe où ça se passe comme ça. Mais il y a quand même un autre pays qui est l'Autriche, où dans les années 80, il y a un parti qui s'appelle le Parti de la Liberté, un parti d'extrême droite, qui va carrément arriver au pouvoir, hein, qui va faire une coalition avec, avec la droite traditionnelle. C'est Georg Haider, et ça va faire un deuxième traumatisme. Et dans les années 90, il va y avoir une accélération en Europe du Nord, au Danemark, aux Pays-Bas, en Belgique. Il y a des partis d'extrême droite qui montent en puissance. En Italie, la Ligue du Nord aussi devient très puissante. Et puis dans les années 2000, cette accélération, elle se confirme. Avec vraiment, parallèlement, on pourrait dire, à cette accélération des extrêmes droites, une forme d'écroulement de tous les partis de gauche traditionnelle, c'est-à-dire les partis dits sociodémocrates, les fameux partis sociodémocrates.
Alors, précisons quand même que, Patrick, dans chaque pays, il y a une spécificité. Par exemple, je pense à la Belgique, c'est un pays que je connais assez bien. Il y a vraiment cette spécificité entre Wallons et Flamands.
Ouais.
Et il y a vraiment cette volonté d'une grande majorité des Flamands de dire qu'on ne veut plus financer pour les Wallons qui sont chômage,
après,
etc.
Il y a des particularités locales.
Donc ça, il faut quand même le préciser. Hein. Il y a toujours des particularités assez régionales. Mais c'est vrai que globalement, il y a une forte poussée des partis dits d'extrême droite.
Et en parallèle, dans les années 2000, un effondrement de tous les partis de gauche traditionnelle. La social-démocratie s'écroule en France, on le sait, le PS s'est écroulé. En Italie, le PS et la droite se sont effondrés récemment. En Allemagne, c'est beaucoup plus récent, mais on voit que la coalition traditionnelle gauche-droite, Merkel-SPD, est en train de s'affaiblir fortement. En Finlande, en Autriche, aux Pays-Bas, en Grèce, en Suède, tous les partis sociaux-démocrates se sont écroulés les uns après les autres. D'accord. Et donc, on est vraiment dans ce double constat d'une montée des extrêmes droites et puis d'un effondrement des partis raisonnables, entre guillemets, sociodémocrates. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur les thèmes de l'extrême droite, de toutes ces extrêmes droites européennes? C'est quoi les grands thèmes?
C'est le rejet déjà de l'immigration.
Oui, bien sûr.
C'est évident. C'est le rejet de l'immigration. Alors, encore une fois, ce qui est dommage, c'est que l'Union européenne n'a pas vu venir le truc. Il n'y a rien de cohérent dans ce que fait l'Union européenne là-dessus. L'immigration n'est pas un problème quand elle est gérée correctement. Et je trouve qu'actuellement, c'est une catastrophe. Elle est très, très mal gérée. J'ai vu là, cette année, je ne sais plus combien de milliers de personnes sont mortes en mer Méditerranée. C'est abominable.
Ouais.
Évidemment que c'est abominable. Mais il faut absolument gérer ce truc. Parce que ça va être de pire en pire, vu la poussée démographique que l'on a. Et c'est ça qui alors ça donne
du grain à moudre
à tous ces populistes. Évident.
Tout à fait.
C'est, à un moment donné, c'est qu'il faut que ceux qui dirigent soient responsables. On veut des politiques européennes, très bien. On ne veut plus de politique nationale. C'est ce que a dit Madame Reading. Il n'y a plus de politique nationale, il n'y a plus que des commissaires européennes. Il n'y a plus que des politiques européennes. Très bien, mais faites quelque chose correctement. Pas à l'emporte-pièce ou pas. Parce que ça ne fera que faire monter les partis extrémistes. Ouais. C'est évident.
Alors, tu as cité une commissaire européenne, ça va nous permettre d'aborder le deuxième grand thème de l'extrême droite après l'immigration, c'est le refus de l'Europe, l'euroscepticisme, comme on peut appeler ça. Ce grand rejet du projet européen tel qu'il s'est construit sur ces 30 dernières années. Tu veux nous en dire un mot ?
Bien sûr. Alors, je donne un exemple précis sur ce qui est arrivé il y a quelques années. On est en 2018, donc en 2005. Souvenez-vous, nous avons eu à voter pour le traité constitutionnel européen. Si vous en rappelez.
Ouais, bien sûr.
Et donc, il y a eu un référendum qui a été organisé à l'époque par Jacques Chirac, souvenez-vous. Donc, on répond oui ou non, on est d'accord ou pas. Bon. D'ailleurs, le non l'emporte à 54%.
Contre 80% des médias qui prenaient le oui.
Exactement. Et il y avait un matraquage médiatique pour le oui.
Tout à fait.
Et qu'est-ce qui est arrivé ? Eh bien, déjà, il y a eu un vote de classe, dans le sens où je m'en rappelle des résultats. À Paris, je crois, d'après mes souvenirs, 80% des Parisiens ont dit oui. Pas-de-Calais, donc Hauts-de-France maintenant, à l'époque c'était Nord-Pas-de-Calais, c'est exactement le contraire. 80% ont dit non. C'était le département record dans le non. Vous imaginez les écarts. Ça veut dire, encore une fois, là on voit vraiment le terreau du populisme. C'est le décalage total entre les Parisiens et les gens du Pas-de-Calais.
Ouais.
Ils vivent dans deux mondes différents. Alors qu'ils sont sur le même territoire et dans le même État. Soit, 54% ont dit non. Donc, normalement, le traité ne passe pas. Qu'est-ce qui arrive ? Sarkozy est arrivé. Il a profité de cet échec de Chirac pour, effectivement, 2 ans après, comme tu le dis, pour faire signer le traité de Lisbonne, qui est exactement la même chose à la virgule près, quasiment, du traité constitutionnel.
Donc le traité refusé, il passera quand même.
Voilà. Et ça... Ça peut donner, encore une fois,
du grain à moudre
aux populistes.
Totalement, totalement.
C'est ça qui est terrible.
Alors, on fait un petit point final pour cette partie-là, en tout cas, sur le poids des extrêmes droites aujourd'hui en Europe. Alors, en vrac, mais vous allez voir, c'est très parlant. En Suède, les démocrates de Suède, pays quand même très, très, très social-démocrate, très modéré, font désormais 17% des voix aux législatives. En Finlande, les vrais Finlandais, entre guillemets, pareil, 17% aux législatives de 2015. En Belgique, il y a eu un parti d'extrême droite qui était le Vlaams Belang, qui a longtemps dominé l'extrême droite belge et qui maintenant voit un autre parti le supplanter, l'Alliance néo-flamande, qui fait partie de la coalition au pouvoir, qui a fait 20% en dernière législative. En Allemagne, c'est plus récent, mais c'est spectaculaire, puisque l'extrême droite alternative pour l'Allemagne est passée de 4 à 12% cette année. En Italie, la Ligue du Nord a réalisé 18% des voix, donc cette année en 2018. Nettement devant la droite traditionnelle de Berlusconi qui a fait que 13%. En Autriche, le parti d'extrême droite FPO, c'est 26% des voix aux dernières législatives. C'est un candidat qui a perdu de justesse au présidentiel. Bon, en France, on sait que Marine Le Pen a fait un peu plus de 20% au présidentiel et qu'elle ne peut pas avoir des voix très importantes donc, au niveau des élections législatives à cause du système majoritaire à deux tours, mais que le parti français d'extrême droite est très puissant. Donc voilà, on termine ce petit parcours des extrêmes droites en Europe pour montrer qu'on a vraiment une montée en puissance extrêmement forte. On va faire une petite pause musicale avec un morceau emblématique de la culture française.
Cigarette, plus rien ne bouge.
Dieu, quel bonheur. Je suis ébloui par ce morceau. Donc, par contre, j'aimerais bien que tu nous expliques pourquoi on a écouté ce morceau, Franck.
À ton avis, Patrick, bah écoute, tout simplement pour
avoir
un petit trait d'humour, un petit trait de relâchement sur ce morceau. Les démons de minuit, alors c'est pas qui sont-ils vraiment, mais ils sont toujours au-dessus de nous.
C'est les démons du populisme.
Peut-être, bon, on ne sait pas. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu vas parler? Tu vas parler du cas hongrois maintenant?
Oui, oui. On ne peut pas ne pas évoquer l'Europe de l'Est. Alors, on a les deux grands exemples. On a la Pologne et la Hongrie. Mais je pense que l'exemple hongrois est encore plus parlant. Donc, il faut qu'on parle de ça, puisque le cas hongrois, c'est emblématique de ce fameux populisme dont on nous rebat les oreilles. Alors, si on parle de la Hongrie, on va parler d'un homme qui s'appelle Viktor Orban et qui symbolise à lui tout seul une grande partie de ce qu'on appelle le populisme aujourd'hui. Alors, son parcours, il vient de la droite traditionnelle. Hein, dans les années 90, c'est pas un perdreau de l'année. Il vient du Parti chrétien-démocrate. Il a été premier ministre en Hongrie entre 1998 et 2002. Il a fait une politique assez classique. Il va rester dans l'opposition entre 2002 et 2010. Et quand il revient en 2010, il fait 52% des voix. Majorité absolue à l'Assemblée. Les deux tiers des sièges de l'Assemblée nationale, donc plus que la majorité absolue, ça va lui permettre de rédiger une nouvelle constitution qu'il va faire promulguer en 2012. Pourquoi une nouvelle constitution? Ben tiens, pour renforcer le rôle de l'État, pour renforcer le contrôle des institutions financières. Donc ça, c'est des trucs, c'est pas trop à la mode au niveau Union européenne. Et puis, il va y aller à fond sur l'affirmation des racines chrétiennes de l'Europe, le rejet extrêmement violent de l'immigration, on va le voir avec la crise des migrants, et une critique forte du libéralisme économique et encore plus du libéralisme politique. Alors sa politique économique, il y a eu un changement très profond hein, entre celle qui menait entre 1998 et 2002, qui était assez classique, hein, baisse de la fiscalité, des cotisations, maîtrise de l'inflation, blablabla. Celle qui va mener à partir de 2010, c'est pas la même chanson. Il va nationaliser les caisses de retraite qui avaient été créées en 1997. Il va refuser une dernière tranche de prêt du FMI hein, pour affirmer l'indépendance de la Hongrie. Il va taxer les grandes entreprises. Il va fixer dans la Constitution un taux d'impôt sur le revenu unique de 16%. Donc là, c'est une mesure pas spécialement de gauche, on va dire. Il réduit le nombre de fonctionnaires. Il réduit les dépenses de fonctionnement de l'État, les dépenses de fonctionnement du gouvernement. Il a établi des droits d'entrée à l'université.
Mais dis-moi, Patrick, c'est des politiques assez libérales, ça ?
Non, c'est un mix, en fait, de certains aspects très libéraux et certains aspects pas du tout libéraux. Et c'est tout à fait ce mix qui est assez représentatif de ce qu'on appelle les populistes. C'est-à-dire des mesures, quand on fait un taux d'impôt sur le revenu à 16%, c'est très libéral. Oui. Quand on taxe les grandes entreprises, c'est pas libéral du tout. Quand on réduit le nombre de fonctionnaires, c'est très libéral. Quand on réduit les dépenses de fonctionnement de l'État et les dépenses sur la culture, c'est très libéral. Quand on dit réduit les dépenses de recherche et développement, c'est très con. Parce que c'est la compétitivité future du pays. Mais il augmente certaines dépenses de santé. Par contre, il va contrôler de façon très très forte les bénéficiaires d'aide sociale. Il va exiger des travaux d'intérêt général. Certains vont parler de camp de travail en contrepartie. Il va faire une répression très violente des sans-abri. Tu vois, c'est un mix qui est difficile à définir.
C'est assez bizarre à comprendre, en fait.
Exactement. Et oui, c'est pour ça qu'on peut parler de populisme, parce qu'on est dans un mix de mesures libérales et de mesures très coercitives, très violentes, très d'extrême droite. Bon. Il faut vraiment comprendre que ce monsieur a eu un succès absolument extrêmement important. Et pourquoi il est arrivé au pouvoir ? Ben parce que la Hongrie, dans les années 2000-2010, c'était le pays d'Europe de l'Est appartenant à l'Union européenne le plus ouvert économiquement. Et il s'est pris de plein fouet ce sentiment de dépossession. La population hongroise se sentait dépossédée de son pays par l'invasion des forces économiques allemandes notamment hein, et l'invasion de la puissance économique et politique de l'Union européenne sur leur pays. C'est ça un peu la racine de l'arrivée au pouvoir de Viktor Orban. Maintenant, on va passer aux mesures politiques. Hein. Mesures politiques qu'il a émises, parce que là, ça va être encore plus parlant. Hein. Les mesures économiques, on voit qu'il y a déjà des choses étranges, mais au niveau politique, il va critiquer très férocement ce qu'il appelle la démocratie libérale. Attention, pas la démocratie. La démocratie libérale, à l'anglo-saxonne, à l'européenne. Pour lui, cette démocratie libérale trahit les intérêts nationaux du pays. Donc il prône la constitution d'un État illibéral. Il appelle ça illibéral. Et qu'est-ce qu'il mentionne comme exemple à suivre ? Singapour, la Chine, l'Inde, la Russie, la Turquie. Il dit qu'il existe des modèles alternatifs de démocratie libérale. Bon, chacun appréciera. Alors, il ne veut pas remettre en cause la notion de liberté, mais quand même, les exemples qu'il cite sont assez parlants.
Alors, est-ce qu'il est resté populaire, Patrick ?
Il est ultra populaire. Il vient d'être élu en 2018. Il a un succès phénoménal. Sa nouvelle constitution de 2012, c'est intéressant de s'y arrêter, parce que là-dessus, on va comprendre des choses. Il fait bien sûr référence aux racines chrétiennes et à l'histoire millénaire de la Hongrie. Il réaffirme qu'un mariage, c'est entre un homme et une femme, point barre. Il y affirme que la vie doit être protégée dès son commencement. Donc là, il fait référence à l'avortement, oui. Bien entendu. Mmh. Il a octroyé la nationalité hongroise à des citoyens d'origine hongroise des pays voisins. Donc ça sent la tension avec la Slovaquie et la Roumanie. Il a supprimé un article qui prévoyait un salaire égal pour un travail égal entre hommes et femmes. Il a restreint le droit de grève. Il a diminué les prérogatives de sa cour constitutionnelle. Il a introduit des lois pour expulser les sans-abri des lieux publics, pour instaurer une détention provisoire illimitée. Il a pris tout un tas de mesures et il a fait tout un tas de nominations pour cumuler les pouvoirs dans un grand nombre de lieux, des cours de justice, des agences d'évaluation, des assemblées locales, etc. Et son grand fait d'armes, en plus de tout ça, parce que ça veut dire pas mal, c'est 2015, l'arrivée massive de migrants aux frontières européennes. Mmh, et là, il va avoir évidemment... Alors pour la Hongrie, c'est quand même 100 000 migrants en quelques mois, ça fait du monde. Il va construire une barrière entre la Hongrie et la Serbie. Il va renforcer les pouvoirs de l'armée et de la police face aux migrants. Il instaure une peine de prison pour franchissement illégal de la frontière. Et évidemment, il va refuser la proposition de quotas de réfugiés faite par Angela Merkel. Pour lui, cette crise des migrants va lui permettre, un, de faire un front commun avec Pologne, Slovaquie, République tchèque et donc Hongrie, pour, disent-ils, assurer leur sécurité de leurs frontières en commun. Mais sa popularité va passer de 32 à 48%. Il a un succès extraordinaire. Donc, il est réélu, il est extrêmement puissant, hein, d'accord. Voilà. Viktor Orban, c'est vraiment le populisme d'Europe de l'Est auquel on se réfère de façon assez systématique.
Alors, faut-il, en fait, quand on voit la cote de popularité de ce type de personnage, c'est quand on voit la cote de popularité de notre président, c'est tout le contraire, quoi. C'est, ouais. Il est élu et très rapidement, les présidents sont impopulaire à une vitesse
oui,
folle.
En France, ouais.
Alors, on commence à se dire, est-ce qu'il faut des mesures à ce niveau-là pour que le président devienne populaire ? Enfin, c'est complexe. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ?
Ben ouais, mais je préfère pas répondre.
C'est compliqué, ben oui.
Joker.
C'est compliqué, oui.
Ouais, ouais.
C'est assez triste, en fait. Est-ce qu'il faut, pour être populaire, prendre des mesures aussi radicales, ou alors rester impopulaire et prendre des mesures aussi qui favorisent peut-être une minorité sur une majorité ? C'est peut-être ça, le fond du problème, non ?
Plutôt que répondre, parce que c'est à chacun de se faire sa réponse, on va dire. Hein. C'est pas à nous d'apporter une réponse.
Non,
à nos
non, c'est des questions que je pose. Oui.
Voilà. On va parler d'un 12e cas, plus récent celui-ci. On en a déjà parlé un petit peu dans une autre émission, mais c'est bien d'y revenir.
Oui.
C'est le cas de l'Italie. D'accord. Donc l'Italie, je sais pas, tu commences, tu nous en parles, qu'est-ce qu'on peut dire?
J'ai déjà commencé en disant que l'Italie, déjà au niveau géographique, il faut quand même rappeler cette position qui est vraiment à l'interface, pour moi, entre le monde... africain et le monde européen. C'est vraiment l'interface, la première. Et c'est vrai que depuis donc, plusieurs années, on voit effectivement, et j'en sais quelque chose parce que je les rencontre, je les vois, on voit vraiment une quantité considérable de gens qui viennent de l'Asie et de l'Afrique en permanence en Italie du Nord.
Ouais.
Et comme je t'avais dit la dernière fois, l'Italie n'a jamais, jamais été une terre où on avait l'habitude de recevoir des gens.
Voilà,
c'était une terre d'émigration. C'est pas dans leur culture du tout,
du tout.
Et donc, les Italiens ont pris ça de plein fouet, avec en plus, une économie moribonde. Tu peux nous en dire un petit peu quelque chose, non ?
Oui, tout à fait. Y a une cause récente, donc c'est vraiment ce flux migratoire et ce choc culturel pour eux. Et il y a une cause plus ancienne, puisque là, je vais remonter vraiment aux années 80, début des années 90. L'Italie est un pays qui, depuis cette époque-là, années 80, début des années 90, est plombé par une dette publique colossale, qui était déjà au-delà de 100% du PIB, quand tous les pays voisins, France, Allemagne, etc., étaient à moins de 60%. Alors c'est un pays qui va faire, dans les années 90, d'énormes efforts de rigueur budgétaire pour pouvoir être intégré à la zone euro, parce qu'il veut faire partie de l'aventure. Attention, hein, l'Italie, c'est un pays très europhile, donc il fait partie de l'aventure. Donc il va faire d'énormes efforts de rigueur budgétaire pour rentrer dans les clous des critères de Maastricht, diminution de leur déficit budgétaire, et en essayant de juguler, mais ça, ils ne vont pas y arriver, leur dette publique. Ils vont le payer, hein, ils vont le payer ces efforts, parce que ces efforts, ils se traduisent par un ralentissement de la croissance, la France aussi dans une moindre mesure. Donc déjà, dès les années 90, l'Italie, c'est un pays où la croissance se ralentit. Qui dit croissance qui se ralentit, dit un chômage qu'on maîtrise pas bien et puis une compétitivité qui n'est pas extraordinaire. Ils réussissent à intégrer la zone euro, et dans les années 2000, c'est vraiment la bérésina. L'Italie va connaître une quasi-stagnation européenne pendant dès le début des années 2000 jusqu'à aujourd'hui. aucun gain de productivité, stagnation. Et le modèle économique sur lequel est basée l'Italie, c'est quoi ? C'est un modèle de PME très dynamique à l'exportation et fondé sur des coûts de salariaux notamment très faibles. Mais ce modèle, il va se prendre un mur dans la figure qui va lui faire très mal. Et le mur, il s'appelle la Chine. La Chine, elle arrive avec des coûts salariaux. Alors là, l'Italie, c'est un peu de la rigolade en termes du coût salarial par rapport aux coûts salariaux chinois. Leur modèle va vraiment être très violemment heurté à l'exportation. Et facteur aggravant, l'Italie fait partie de l'euro. L'euro est une monnaie bien trop forte pour l'économie italienne et ça va vraiment faire plonger l'Italie dans le trou. Donc, recul généralisé de l'économie italienne depuis son entrée dans l'euro.
Est-ce qu'ils n'avaient pas l'habitude de dévaluer régulièrement leur monnaie ?
Bien sûr, et ça, c'était fini.
Donc là, maintenant, ils ne peuvent plus, ça.
Ouais. Bon, en contrepartie, l'euro, ça leur a permis d'emprunter pour pas trop cher pour financer leurs dettes, mais quand même. Et tout ça, ça a amené quoi ? Bah, ça a amené l'arrivée au pouvoir en mars. Enfin, le temps qu'ils forment le gouvernement, c'était en juin 2018 de cette année, d'une coalition composée donc de l'extrême droite de la Ligue du Nord de Matteo Salvini, qui avait fait 18% des voix aux élections législatives, et du fameux mouvement 5 étoiles de Luigi Di Maio, qui avait fait, lui, 32% aux législatives. Alors, il faut vraiment savoir que depuis, c'est quand même Salvini qui a pris le pouvoir dans cette coalition. Il a plus d'expérience, il est plus roué, entre guillemets, que Di Maio. Et aujourd'hui, ce gouvernement italien, c'est le gouvernement de Salvini.
Je pense, oui.
Tu peux nous en dire quoi de ce gouvernement ? Qu'est-ce qu'il a fait sur le plan politique vis-à-vis des migrants ?
Ah ben, c'est un rejet, en fait. D'ailleurs, ils ont été élus sur ce principe-là. C'est qu'ils voulaient ne plus avoir de gestion d'immigration. Et ce qui se passe, c'est que...
Bah, il va durcir complètement sa politique.
Je pense que ça va être de plus en plus dur pour les migrants. Parce que là, quand je vois encore à Vintimille, il n'y a pas longtemps, donc c'était au mois d'août, c'est vrai que j'imagine mal que ça dure encore longtemps, ce genre de situation. C'est absolument insupportable. Vous savez, de voir des gens... dormir dans une gare ou dormir en masse là, dans une ville comme Vintimille où vous êtes sur la Côte d'Azur, enfin sur la Côte d'Azur italienne, la Riviera, c'est absolument insupportable.
Ouais.
C'est insupportable. Il faut trouver une solution. Et là, j'ai l'impression que la seule solution qu'il a trouvée, c'est l'expulsion.
Ouais, tout à fait.
C'est, je pense.
Hein. Il est en train de former un axe Italie-Hongrie. On vient de parler de Viktor Orban. Un axe dans l'Union européenne pour créer une logique très nationaliste et très anti-immigration. Je peux revenir aux mesures économiques, enfin aux questions économiques, parce qu'il y a quand même quelque chose de très récent qui est important, qui est en train de se passer. Le gouvernement italien a présenté son budget, donc le gouvernement Salvini. Et ce budget n'est pas le même que celui du gouvernement précédent. Hein. Bien sûr, le gouvernement précédent avait prévu un déficit budgétaire de 0,8%, donc presque équilibré, extraordinaire. Et le gouvernement Salvini, lui, modifie ce budget pour intégrer des mesures qui étaient dans leur programme. En même temps, c'est la démocratie. Et il passe de 0,8% de déficit à 2,4%. Vous remarquez que c'est quand même moins de 3%. Il est encore dans les clous de l'Union européenne. Mais comme il n'a pas respecté l'engagement budgétaire du gouvernement précédent, l'Union européenne a retoqué ce projet de budget. Et là, on entre dans un bras de fer entre l'Union européenne qui veut faire respecter des critères où on voit vraiment un contrôle de plus en plus fort des politiques économiques des pays par l'Union européenne, par la Commission européenne, et puis le gouvernement Salvini qui va sauter sur l'occasion pour dire qu'il n'est pas question qu'on se soumette à l'Union européenne. Alors pourquoi il y a quelques dépenses supplémentaires ? Parce qu'ils veulent créer une sorte de revenu de citoyenneté, parce qu'ils veulent abaisser l'âge légal de départ à la retraite, parce qu'ils veulent mettre en œuvre une amnistie fiscale partielle, d'accord ? Ils veulent mettre en œuvre des allègements de taxes et d'impôts pour les travailleurs indépendants. On voit encore, comme d'habitude, ce mélange un petit peu bizarre dans les politiques économiques qu'on avait avec Orban, entre des mesures de gauche et des mesures de droite. Donc là, il faut vraiment suivre ça de près, ce qui va se passer au niveau du bras de fer, parce que la Commission européenne, elle est quand même mal barrée. Hein. On ne va pas manœuvrer l'Italie comme on manœuvre la Grèce. La Grèce, c'était un pois chiche. L'Italie, c'est le troisième pays en termes de puissance économique. Si l'Italie décide de sauver l'euro, l'euro, il s'écroule et il disparaît instantanément. Voilà, on en a fini avec l'Italie. On va faire une deuxième pause musicale d'une qualité un peu plus anglo-saxonne.
Oui, on va lancer Joe Jackson, Wild West. On y va.
To the west, there's a trail that leads somewhere, and a call of the wild to take some people there. Through Monument Valley to California, sun.
From New Amsterdam to the way the West was won. Wow, years will go by when you won't get nowhere. You're cold and you're tired and you're free and you don't care. You keep pushing on when your friends keep turning back. And you keep building towns and laying railroad track. And things get crazy and you have to use that gun. And you wonder if this is the way the West is won. But keep thinking that way and you won't get nowhere. Cause you got a right just to get where you're going to. Gotta keep running, gotta be the best. Gotta walk on the Wild West.
Poker menteur.
Poker menteur.
Galade.
Oui, vous êtes bien sur l'émission Poker menteur. Sur le populisme, alors, nous venons d'écouter Joe Jackson, un morceau qui s'appelle Wild West.
En fait, c'était un petit clin d'œil parce qu'il raconte l'histoire de l'Ouest sauvage qui a été peuplé par les Américains, les migrants américains, et puis le fait que les descendants de ces migrants se retournent vers les autres immigrants que sont les Latinos en disant non, on veut pas de vous. Donc c'est une espèce de le temps est un éternel retour hein, des migrants qui sont rejetés ou qui arrivent à conquérir. Alors on va parler rapidement, si tu le veux bien, des États-Unis.
Oui.
Parce qu'on peut pas ne pas parler des États-Unis si on parle de populisme. On peut pas parler de notre ami Donald Trump. Comme je dis à un certain nombre d'élèves que j'ai, il faut toujours être ami avec les cinglés, donc je dis toujours notre ami Donald Trump. Voilà, comme ça, pas d'ennui. Alors, on ne va pas en parler longtemps, parce que je pense qu'on fera une émission spéciale sur notre ami Donald Trump, mais rapidement, quand même, ce monsieur, quand il décide de se présenter aux primaires républicaines pour la candidature au présidentiel, personne n'y croit, hein, d'accord, mais dans le parti républicain, mais personne n'y croit. C'est une caricature vivante du politiquement incorrect, on se dit, il n'a aucune chance. Il va fracasser tous les candidats républicains. Ensuite, quand il est au présidentiel face à Hillary Clinton, personne n'y croit pour la même raison. Il va fracasser tout le monde. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et bien, en fait, quelque part, c'est le leader populiste par excellence. Hein. C'est une personnalité hors norme, charismatique, parce que dans le populisme, il y a toujours un chef charismatique. D'accord. C'est un businessman très riche, animateur télé star, qui a eu tout un tas d'effrayer la chronique dans tous les sens sur des choses assez rigolotes, mais on va pas s'arrêter dessus. Sa vision de l'Amérique, c'est l'Amérique oubliée, c'est l'Amérique des industries mourantes, de la Rust Belt, c'est-à-dire tous ceux qui ont vu la désindustrialisation et qui n'ont pas vu de suite d'alternatives qu'on a laissé tomber en quelque sorte.
Oui.
Il dénonce les élites politiques, les élites pourries, hein, il dit qu'ils ont trahi le pays. Et il a des rapports évidemment très tendus parce que dans les élites, il inclut les médias et donc c'est un petit peu chaud ces rapports avec les médias. Son discours, il n'y a pas de politiquement correct. Il insulte tout le monde. Il insulte Hillary Clinton, il insulte les femmes, les noirs, les homosexuels, les musulmans. Bref, c'est monsieur No Limit. Et pourtant, il va séduire, et peut-être pas pourtant, mais de fait, il va séduire. Il va séduire par tout ça. C'est-à-dire que, par exemple, quand il tient un discours qui consiste à dire oui, les autres candidats sont financés par des lobbies et des milliardaires, donc ils sont à leur botte, mais moi je suis milliardaire, j'ai besoin de personne pour me financer. Nous, on voit ça, on est effarés quand on est français. Mais les Américains, ils trouvent ça génial. parce qu'ils ont quand même ce respect du milliardaire du self-made man.
Alors, est-ce qu'il est resté populaire là, depuis son élection?
Bah ouais, je trouve. Hein. Je trouve qu'il est assez populaire parce que d'abord, il a une réussite économique incontestable. Pour l'instant, l'économie va très bien. Et les mid-terms, c'est souvent les résultats économiques. Après, son discours, il a beau être extrêmement clivé vis-à-vis des médias, je pense que fondamentalement, ses solutions simples, hein, donc lutte contre l'immigration, on retrouve ça, bien sûr. Il y a une menace terroriste, on interdit les ressortissants des pays à risque, les grandes entreprises délocalisent, on les force à revenir. Tout ça, c'est des messages simples et clairs, et ça marche extrêmement bien. Alors, je te dis, on fera une émission là-dessus, mais qu'est-ce qu'on pourrait dire sur l'origine historique, les racines historiques de Trump? Il n'est pas né de la pluie, hein, je dirais. On peut le rattacher à un courant politique américain. Lequel?
Oui, c'est l'isolationnisme. Quand on remonte à l'histoire des États-Unis, très rapidement, hein, déjà, dès la naissance à la fin du XVIIIe siècle, Washington avait deux conseillers. Il hésitait entre ou une tendance effectivement européenne proche des Anglais ou des Français ou une tendance américaine. L'isolationnisme est né au début du XIXe siècle avec la doctrine Monroe qui dit tout simplement l'Amérique aux Américains. Alors quand il dit ça, il prend tout le continent américain. Parce qu'il faut savoir que l'Amérique, c'est la chasse gardée des États-Unis. Mmh. Ça, faut être clair. Ouais. Et s'ils interviennent pas, par exemple, directement dans un État, c'est qu'ils n'ont pas l'intérêt. Mmh. Sauf que, qu'est-ce qui s'est passé en 1916, vous avez Woodrow Wilson qui est réélu président des États-Unis contre la guerre. Mmh. Un an après, grâce à un matraquage, une propagande incroyable, les États-Unis entrent dans la guerre. Du côté, évidemment, des Anglais, parce que ça a toujours été leur copain, ça c'est logique. Hein. Mmh. Et du côté français aussi, forcément. Ouais. Et donc les Samis sont retrouvés sur le territoire français dès plutôt début 18, fin 17, début 18. D'accord ? On en a parlé d'ailleurs le mois dernier. Donc ça, c'est la première fois que directement les Américains intervenaient en dehors de l'Amérique. Mais la deuxième fois, évidemment, ça on le sait, c'est en décembre 1941, quand les Japonais ont eu la très très grande idée de leur part d'attaquer la flotte à Pearl Harbor et de détruire la plupart de la marine américaine. Les États-Unis et Roosevelt déclarent la guerre au Japon. Et
sinon,
aussi,
c'était pas évident qu'ils rentrent.
Ah, ils ne rentraient pas.
C'était pas évident. Hein.
Ils ne rentraient pas.
Les isolationnistes.
D'ailleurs, Hitler était furieux quand il a appris cette attaque japonaise par surprise, sans déclaration de guerre.
Ouais, ouais.
Donc vous imaginez dans quel état étaient les Américains.
Une erreur tactique colossale.
Colossale. Économique, tactique, ils étaient sûrs de perdre. Mmh. En fait, la guerre s'est jouée à ce moment-là.
Ouais, ouais, tout à fait.
Je pourrais te
dire. Tu sais quoi? Oui. J'ai lu un roman de Philip Roth, c'est le romancier américain génialissime qui est mort il y a peu de temps, et qui s'appelle Le complot contre l'Amérique. Et c'est un roman qui fait de la politique fiction, entre guillemets, qui examine ce qui serait passé si les États-Unis n'étaient pas entrés en guerre. Et il imagine l'arrivée au pouvoir de celui qui a traversé l'Atlantique en avion,
Lindbergh.
Lindbergh, voilà. Oui. Et d'un gouvernement proche des nazis, etc. C'est un livre assez effrayant et vraiment bien, Le complot contre l'Amérique. Qui parle d'un succès des isolationnistes, mais avec des sympathies nazies.
Absolument, absolument.
Ok, donc on reviendra sur Trump, on en a dit quelques petites choses. En guise de conclusion, je voudrais qu'on aborde un dernier petit point. Ce petit point, c'est la chose suivante, parce qu'on l'a abordé au début. On s'est dit, le populisme, si c'est l'extrême droite, bon, bah, ok, c'est de l'extrême droite. Mais on voit que c'est peut-être pas que de l'extrême droite. Est-ce qu'il y a un populisme de gauche? C'est la dernière question, en fait, que je voudrais qu'on se pose pour terminer cette émission. Existe-t-il un populisme de gauche? Alors, c'est très simple. Hein. Le populisme... Enfin, face à cette question, il y a deux réponses possibles. Il y a oui ou il y a non. C'est quand même pas compliqué. Hein. Donc, la réponse oui, c'est laquelle? Eh bien, il y a une philosophe, quelqu'un de très sérieux, hein, qui est belge d'origine et qui vit aux États-Unis, qui travaille aux États-Unis, qui s'appelle Chantal Mouffe, et qui a beaucoup travaillé sur cette question du populisme de gauche. Et elle dit il peut y avoir un populisme de gauche qui va être issu d'une convergence des luttes, d'une remise en cause d'une démocratie consensuelle, mais plutôt une démocratie fondée sur une forme de débat antagoniste, hein, ce qui est en même temps ce qui se comprend. Mais elle ajoute quand même, il faut faire un travail de fond pour gagner la population aux idées du populisme, ça c'est pas choquant, mais elle ajoute quand même, le populisme de gauche, c'est quand même l'idée de rassembler un peuple, fondé sur un discours qui sera fondé sur des affects, d'accord, et rassembler un peuple derrière un chef charismatique. Elle reconnaît Mélenchon, elle reconnaît Podemos comme étant un bon représentant du populisme de gauche. Sachez quand même qu'il y a un courant à gauche qui conteste extrêmement violemment cette notion-là. On peut comprendre en même temps, sans rentrer dans le détail, quand on dit un peuple uni, fondé sur des affects, déjà un peuple uni, c'est pas évident intellectuellement, parce que le peuple, il est rarement uni, hein, il est composé de tout un tas de sous-catégories.
Oui, ça on pourra en parler
fondé
aussi,
sur
oui,
des
oui,
affects et qui se regroupe derrière un chef charismatique. Sens que ça sent, hein, ça sent quoi là, en Italie, début du XXe siècle, début des années 20 Ça sent pas un peu le fascisme, cette histoire-là?
Oui, malheureusement, je pense que là, on va bientôt devoir laisser nos auditeurs...
Hein. Bon, populisme de gauche, c'est pas encore joué hein, comme
voilà,
notion. Ça sent le brûlot hein, quand même comme notion.
Un petit peu.
Ouais.
Patrick, bonne soirée.
Merci.
Les auditeurs, les auditrices, bonne soirée. Au mois prochain. Au revoir.
Au revoir.
Poker Menteur.
Poker Menteur.
Avec Patrick Trouillou. Dans le rôle de Patrick Trouillou.
Et Franck Bonnet dans le rôle de Franck Bonnet.
Poker Menteur.
Poker Menteur.
L'émission qui interroge le monde.
De Villefranche à Tataouine.